La course relais de la formation sportive sur Radio Cap. Nanambala, au démarrage, passe le relais à deux de Mekabe Angalula qui fonce vers le micro et le passe à Kanis Mukongo Chambouille. Il fonce et se trouve en tête à la sortie du virage où Christian Mulumba l'attend. Les 100 derniers mètres sont parcourus sans encombre et. Victoire! Le 400 mètres relais de la formation sportive, c'est tous les dimanches à partir de 15h, heure de Kinshasa.
Voilà, nous vous rappelons le moyen de contact, le 081-890-63-77 pour les appels et le 081-070-2050 pour les SMS. Nous avons déjà en ligne Maître Marc Ekila, avocat près le barreau de Matete. Bonjour Maître Marc.
Bonjour mon frère.
Alors en RDC, certaines personnes prennent le risque de contrefaire la monnaie et pourtant on peut lire sur les billets la mention suivante, les contrefacteurs sont punis de servitude pénale. Quelles sont les différentes formes de contrefaçon de la monnaie et qu'entend-on par servitude pénale? Mais d'entrée de jeu, Maître Marc, nous aimerions peut-être savoir c'est quoi la contrefaçon de la monnaie.
Avant toute chose, permettez-moi d'abord de saluer tous les auditeurs de la radio au Capi, et comme vous l'avez dit si bien dit, il est repris sur les billets de notre pays la mention les contrefacteurs et punis des servitudes pénales. Donc pour parler de la contrefaçon, nous pouvons définir ça de manière un peu simple en disant que la contrefaçon c'est imiter servilement et librement une œuvre au préjudice de son auteur. Et ceci vraiment dans une intention frauduleuse. Ou nous pouvons encore dire, en des termes encore plus simples, c'est plagier, c'est changer ou modifier l'apparence de quelque chose pour tromper. Voilà en des termes simples ce que nous pouvons entendre par contrefaçon. Et comme vous avez dit,
la contrefaçon de la monnaie
a prévu un certain nombre de variété de contrefaçon de la monnaie. Mais je voudrais d'abord préciser que c'est une infraction qui est très grave et pour s'apercevoir de la gravité de cette infraction, il suffit de voir la place que l'occupe dans l'organisation, dans la présentation du code.
Maître Marc, avant que nous entrons dans les dispositifs, dans les dispositions légales, quel lien existe-t-il entre la contrefaçon de la monnaie et le blanchiment d'argent?
Écoutez, la contrefaçon de la monnaie, c'est une infraction qui est punie d'abord ici localement par le législateur congolais. Et le blanchiment d'argent, c'est une forme de lutte internationale contre la criminalité internationale en matière d'argent. C'est une forme de criminalité, et malheureusement, une criminalité nouvelle qui va très, très croissante. Et le législateur congolais vient de prendre une loi très récemment pour lutter contre ce blanchiment d'argent.
Alors, que dit concrètement la législation congolaise sur la contrefaçon de la monnaie nationale?
Voilà, à ce moment-là, donc, il faudrait prendre le code pénal congolais dans son livre deuxième, et le titre est 3, et des articles 116 à 118. Nous pouvons rapidement, là-dedans, distinguer la contrefaçon de ce que le législateur lui-même appelle des monnaies métalliques, et la contrefaçon de ce que le législateur appelle aussi la contrefaçon des billets aux porteurs, et nous avons aussi la contrefaçon des personnes qui n'ont pas participé directement à la contrefaçon, mais qui se sont permis quand même d'utiliser cet argent-là, sachant qu'elle n'est pas de l'argent contrefait, et de ceux qui se permettent de livrer, ayant reçu cet argent-là, ils savent que ce n'est pas l'argent qui est en cours légal, c'est-à-dire l'argent contrefait, mais qui se permettent quand même de les utiliser et de prendre cela pour vrai. Donc voilà le quatre formes de la contrefaçon qui sont réprimées par les acteurs congolais au travers des articles 116, 117, 118, 119 et 120 du Code pénal congolais, livre deuxième.
Donc, si je comprends bien, la contrefaçon est une violation d'un droit de propriété intellectuelle.
Non, attention, parce que là, notre loi prévoit plusieurs sortes de contrefaçons. Nous avons la contrefaçon sur la monnaie, la contrefaçon sur la propriété intellectuelle. Nous avons même la contrefaçon sur la manière des documents devant permettre de payer des dettes envers l'État. Et nous avons même la contrefaçon des bulletins de vote en matière de la loi électorale. Et nous avons même chez les militaires la contrefaçon, n'est-ce pas? Ça, c'est les articles 79 et 80 du Code pénal militaire. Nous avons la contrefaçon des titres établis par les autorités militaires. Donc, notre législation tient compte des différentes. De plusieurs sortes de contrefaçons. Donc la contrefaçon de la monnaie est vraiment distincte de la contrefaçon des professeurs
intellectuels. Alors, si nous prenons peut-être un cas, en France, la contrefaçon s'applique dans deux domaines différents, à savoir le droit commercial et la propriété intellectuelle. Mais alors, pour les cas de la législation congolaise, parce qu'on sait que notre droit découle dans deux des cas, le droit français et le droit belge, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que notre législation, disons, la contrefaçon s'applique également au niveau du droit commercial uniquement, donc pas au niveau de la propriété intellectuelle, au niveau du droit commercial uniquement?
Non, la contrefaçon est une infraction que nous retrouvons en matière de droit pénal.
Mmh.
Elle est également une infraction que nous retrouvons en matière de droit intellectuel, car notre propriété intellectuelle, c'est déjà le droit civil.
Mmh.
Et nous avons également la contrefaçon en matière de droit commercial, normalement en matière de concurrence déloyale. Là, il est fait application du décret de 1950 autour de la concurrence déloyale. Donc, notre droit vraiment tient compte de la contrefaçon dans tous les aspects de la vie juridique, si vous voulez.
Alors, l'Interpol qualifie la contrefaçon comme une activité criminelle à part entière. Ça, c'est d'une manière générale. Mais en particulier, la contrefaçon monétaire peut-elle aussi être considérée comme une activité criminelle?
Mais je disais tantôt, monsieur le journaliste, la contrefaçon, c'est une très grande activité criminelle. Pour vous en apercevoir, il suffit seulement de prendre la place qu'elle occupe dans l'arsenal juridique du droit pénal congolais. Parce que le droit pénal congolais contient 8 livres. Alors la contrefaçon est reprise dans la rubrique relative aux infractions contre la voie publique. Et je viens au titre 3. Tous les 8 titres, la contrefaçon vient au troisième titre. Donc vous vous rendrez compte de la gravité de cette infraction. Et pour vous en apercevoir, vous rendrez compte du taux de la peine. Quand une infraction est punie déjà de 15 ans de servitude pénale, vous comprenez déjà que c'est une infraction. Plus de 15 ans, il y a l'infraction de 116. C'est qui se contrefait. La contrefaçon pour les pièces métalliques, la monnaie métallique, si vous voulez, c'est de 15 ans maximum. Et pour les billets au porteur, c'est de 20 ans maximum. C'est une très grande activité criminelle. Parce qu'à ce moment-là, c'est l'État qui est victime. La monnaie, c'est un signe de souveraineté pour l'État. Alors quand il y a l'altération, la contrefaçon, l'imitation des signes de souveraineté de l'État, vous vous rendez compte que c'est une très grande activité criminelle et qui est d'ailleurs sévèrement réprimée à juste titre.
Oui, ça, ce sont des sanctions. Donc, le contrefacteur est passible de 20 ans, comme vous l'avez dit. Mais nous verrons aussi dans l'autre cas, celui qui consomme, tout en sachant qu'effectivement, c'est un billet contrefait. Mais nous rappelons d'abord à nos auditeurs qu'ils peuvent aussi nous faire parvenir les réactions. Peut-être autour de vous, vous avez des contrefacteurs. Hein. Je sais que c'est toujours un problème de dénoncer ou carrément d'aller saisir la police pour dire, mais voilà, il y a des suspects tout autour de nous qui font qu'aujourd'hui notre monnaie soit contrefaite. Nous allons y revenir, mais en vous rappelant que vous pouvez nous rejoindre au 081-890-63-77.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Patrick Charlie.
Bonsoir Luana de Mbandaka, bonjour Blanchard.
Oui, bonjour, JR.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation est de savoir quelqu'un qui écrit simplement son nom sur un billet de banque pour raison de sécurité. Est-ce que c'est cette personne-là commet l'infraction de contrefaçon? Et la deuxième préoccupation, quel est le terme juridique approprié que le droit pénal congolais donne aux gens qu'on appelle communément frappeurs? Et ces gens commettent-ils la même infraction qu'un contrefaçon.
Voilà, merci Blanchard. Nous avons également Arsène Odo de Bukavu. Bonjour Arsène. Bonjour Arsène.
Oui, bonjour.
Votre question?
Ok, bonjour, j'ai 455. Je demande à notre invité. Je demande à notre invité concernant. Parce que il y a des. Souvent notre frontière, elle n'est pas beaucoup sécurisée. Alors nous voyons, il y a des faux monnaies qui, dans des pays étrangers, soit à Ouganda, et les commerçants les amènent ici. La loi prévoit quoi pour ces gens-là qui font des telles situations? C'est ce que je demande à notre invité.
Merci Arsène. Maître Marc Equila, vous avez suivi les deux interventions. La première, celle de Blanchard, qui tourne autour des écrits sur les billets, ainsi que les termes juridiques appropriés pour les frappeurs. Et puis Arsène qui insiste sur les frontières qui ne sont pas sécurisées. Et de temps en temps, les trafics de ces billets contrefaits, c'est fait à longueur de journée. Alors, quelles sont les sanctions prévues? Voilà, merci. Maître Marc, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, je suis en ligne.
Alors, que répondez-vous à Blanchard d'abord, qui parle des écrits sur les billets?
Alors, je voudrais d'abord commencer sur le deuxième aspect, disant qu'on appelle des frappeurs. Ça, c'est vraiment un mal qui frappe notre pays, et c'est une pratique qui devient de plus en plus monnaie courante. Et pour dire, comme je disais tantôt, c'est la contrefaçon. Ces gens-là sont vraiment des
contrefaçons.
Des contrefacteurs au sens plein, parce que je disais que l'article 117 du Code pénal punit ceux qui ont frauduleusement contrefait ou falsifié des billets aux porteurs et en cours légal. Donc, dans le cours légal en République démocratique du Congo ou à l'étranger. Or, dans notre pays, nous utilisons, il y a beaucoup de monnaies qui ont cours légal. Vous avez les dollars, vous avez l'euro, ainsi de suite. Donc, ces gens-là qui se permettent, n'est-ce pas, de falsifier, d'imiter, de plagier cet argent-là pour leur donner l'apparence sûre et l'apparence vraie pour que ce soit accepté. Ce sont vraiment des contrevenants au sens propre de l'article, au sens plein, je dirais, de l'article 117 du Code pénal. Donc, ils ont une appellation qui est des contrefacteurs et ils rentrent dans les champs d'application de. Et en ce qui concerne tout le fait d'écrire sous la monnaie, écoutez, moi je pense que la monnaie, il faut protéger la monnaie. Et le droit pénal, c'est un droit qui est très spécial. Bon, dans le libellé de l'article 116, il n'est pas repris, à mon sens, il n'est pas repris le fait d'écrire sous la monnaie, mais il n'est pas dit qu'on n'encourage pas d'écrire sous la monnaie. La monnaie, c'est un titre de souveraineté. Elle doit être, n'est-ce pas, très bien, très protégée par son utilisateur ou par le consommateur. Concernant
la frontière.
La frontière.
Arsène, bon, pas la frontière.
Je ne sais pas exactement ce que notre camarade Arsène voulait dire, mais j'ai cru comprendre que quand il parle de faux monnaie, la monnaie, pour qu'elle soit fausse, on doit d'abord constater que cela est. La monnaie n'est pas bonne, c'est une fausse monnaie. Est-ce que le fait seulement qu'on puisse utiliser l'argent au niveau des frontières, cela revient nécessairement à dire que l'argent est faux? Là, je ne le pense pas. Mais s'il arrivait ou s'il est établi réellement que les transactions autour des frontières se passent autour des monnaies qui tombent, des fausses monnaies, et qui tombent dans le champ d'application de la loi, je pense que ça doit être sévèrement réprimé. Mais pour aussi, il y a aussi un aspect technique qui doit intervenir pour déclarer ou pour établir que la monnaie n'est pas bonne ou la monnaie est contrefaite. C'est-à-dire qu'il y a toute une expertise, il faut faire intervenir la police scientifique qui a des éléments nécessaires, n'est-ce pas, pour dire si la monnaie est contrefaite ou pas. Donc je crois qu'il y a aussi un aspect technique. À première vue, voir la pièce, un billet de banque, si vous voulez, et le déclarer faux, c'est trop aussi facile. Même si, bon, il faudrait vraiment qu'on arrive à prouver cela, parce que le droit pénal, c'est aussi un problème de preuve. Donc, à ce moment-là, la police technique, la police scientifique doit intervenir avec toute sa technicité pour établir cela. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là.
Oui, Félix Kawaya de Kalemi, vous êtes en ligne. Bonjour Félix.
Oui, bonjour Radio Capi.
Votre question?
D'accord, moi j'ai au moins deux préoccupations. Oui, la première, c'est par rapport aux mesures de lutte pour la contrefaction d'un oncle. Les mesures juridiques, en fait, luttent pour la contrefaction de monnaies nationales, en fait. Ça, c'est un. Et la seconde, c'est par rapport. Parce qu'on a trouvé que ce sont des grands bonnes ou soit des gens qui ont assez d'argent, qui sont en collaboration avec les autorités qui sont à la base de toutes ces manipulations, en fait. Alors, quels sont les éléments, en fait, que la loi a prévus pour condamner au moins tous ces gens-là qui sont à la base de ces manipulations, en fait?
Merci, Félix. Maître Marc.
Oui, je crois que les deux questions de notre ami de Calémie, Félix, les deux questions ne se rejettent pas. Je crois que les deux questions sont complémentaires pour ne pas dire qu'il s'agit d'une seule et même question.
Tout à fait.
Il s'agit d'une seule et même question. Donc, les mesures de lutte contre la contrefaçon, la meilleure mesure de lutte, c'est d'abord la loi. Le code pénal a pris des dispositions, comme je disais tantôt, très draconiennes à l'égard des contrevenants. Alors, comme notre ami Félix de Calémie dit que ce sont de grands bonnes, je crois ou je sous-entends que lui, au moins, il a connaissance des gens, il connaît des gens qui se livrent à cette pratique-là. Mais c'est aussi le devoir des citoyens qui les dénoncent. Parce que prévoir la sanction, le code prévoit la sanction, comment les champs d'application de la loi ainsi que la sanction. Ça, c'est une chose, ça, c'est sur le plan des causes. Mais dans la vie de tous les jours, dans la pratique, comment réprimer? Je crois qu'il en va aussi de la responsabilité de tout citoyen, n'est-ce pas, de protéger la monnaie. Comme je disais, la monnaie, c'est un signe de souveraineté de l'État. Il en va aussi des devoirs de tous les citoyens du Congolais, de tous les citoyens du monde, de protéger l'argent, de dénoncer quand vous avez connaissance des malfaiteurs, comme on dit à qui ça fait des frappeurs, ou de même quand vous les connaissez. Il faut dénoncer cela. Et aussi, actuellement, quand il a parlé aussi des éléments prévus par la loi, je crois que c'est le code lui-même, à travers les articles 116, 117, 118, 119 et 120. Et aussi, actuellement, au niveau du gouvernement, il y a une politique de lutte contre la corruption, contre les antivaleurs. Et contre les antivaleurs, et je crois que la contrefaçon rentre vraiment dans le cadre de la lutte de contre les antivaleurs. Et aussi, comme il le dit, ce sont des grands bonnes. Bon. Et que nous appelons généralement les délinquants à col blanc. À ce moment-là, il faut dénoncer. Il faudrait saisir l'autorité. Et l'autorité judiciaire, les autorités judiciaires, elles doivent rentrer. Au niveau sur le plan national, je crois que Félix, il suit l'actualité du pays. C'est que nous sommes à l'heure de la tolérance zéro où la lutte contre les antivaleurs ne pardonne pas.
Oui, Maître Marc, vous avez parlé de contrefacteurs qui est vraiment puni de servitude pénale. Vous avez parlé, si je m'abuse, de 20 ans de prison, n'est-ce pas? Alors, pour celui qui consomme ses billets, tout en sachant qu'il s'agit bien entendu d'un billet contrefait, que prévoit la législation congolaise pour cette personne?
Mais celui qui consomme ces billets-là, celui-là, c'est l'article 118 qui en parle. L'article 118 du Code pénal, livre 2e, allais-je dire, celui-là est puni d'un mois à 3 mois aussi, hein, d'un mois à 3 mois. Donc vous comprenez que c'est quelqu'un, il n'est pas coupable, mais du moins le fait pour lui de détenir cet argent-là, il est déjà puni. Donc pour cela, je voudrais dire quoi? Je voudrais dire que le législateur congolais a pris en considération toute l'entreprise criminelle, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire au niveau de ceux qui se livrent à cette pratique, qui sont réprimés, ceux qui détiennent la monnaie, qui sont réprimés, et ceux qui, sachant aussi que la monnaie ou la pièce métallique, la pièce de monnaie n'est pas bonne, mais fait un effort pour les consommer ou pour le passer pour vrai. Donc tout ce monde-là, donc je dirais toute cette scène criminelle est prise en considération et les sanctions suivent. Donc les acteurs congolais dans cette entreprise criminelle là n'a laissé aucun aspect, donc il a pris tout le respect en compte. Là vraiment je crois que les acteurs congolais a bien fait, donc il a fait une bonne projection de la situation il a tenu compte de tous les cas de figure possibles pouvant rentrer dans cette chaîne, dans cette entreprise de chaîne criminelle.
Oui, maître Marc, peut-être une question de curiosité. Jamais, parce qu'il y a, des contrefacteurs qui le font intelligemment et ils passent vraiment inaperçus, du moment où on met la main sur ces personnes, vous l'avez dit, le COP de 20 ans de prison, alors avec bien entendu des amendes à payer, parce que là, il s'agit bien des préjudices qu'on cause à l'État.
Bien entendu. Si j'ai mis l'accent sur le peine d'emprisonnement, c'est pour démontrer aussi la gravité, mais bien entendu, ça c'est le mal, si vous privez quelqu'un de la liberté pendant, j'ai mis l'accent sur cela pour démontrer que quand vous tombez sur ce champ d'application, sur le champ d'application de ces dispositions légales, vous êtes privé de liberté pendant autant de temps.
Mais les amendes.
Imaginez qu'on vous prive de liberté pendant 15 ans, pendant 20 ans, vous imaginez. Alors, il y a aussi, n'est-ce pas, il y a aussi les peines d'amende, mais ici, pour moi, l'occasion, parce que vous savez, notre code pénal, il date de 1940.
Oui, c'est encore terminé.
C'est l'occasion aussi, vu l'ampleur que ce phénomène est en train aussi de prendre, les amendes qui sont prévues aujourd'hui, dans le code, par exemple, quand on parle de 3000 francs, de 2000, vous prenez qu'actuellement, ça ne représente rien. Par exemple, pour ceux qui consomment ça en seconde main, mais il faut dire ici l'occasion pour nous d'inviter l'autorité publique, notamment le Parlement.
Oui, même alors que, disons, cette contrefaçon est estimée par rapport à, je sais pas, par rapport à où la sanction doit être au pourrata du niveau de la contrefaçon, c'est difficile aujourd'hui d'estimer le volume de la contrefaçon.
Non, pour l'amende généralement, le juge il a les minima et les maxima appliqués en matière d'amende. C'est dans ce sens-là que je suis en train de dire qu'il est temps maintenant pour notre législateur d'essayer un peu de retoucher les dispositions relatives à l'amende. Parce que quand on vous parle d'une peine d'amende, il y a des endroits où c'est précisé et des endroits où ce n'est pas précisé. Mais quand là où c'est précisé, par exemple, on vous dit une peine de 3000 francs, bon, ça c'est 3000 francs de l'époque, avant c'était beaucoup d'argent, mais les 3000 francs aujourd'hui,
ça représente rien.
C'est comme ça, il dit que ce sont des quelques discussions-là qu'il faut retoucher aujourd'hui pour que ça traduise, ça exprime réellement la gravité de l'entreprise criminelle.
Oui, une autre curiosité, est-ce qu'il s'agit pas des amendes transactionnelles?
Non, il ne s'agit pas des amendes transactionnelles. Ce sont vraiment des amendes peines, des amendes sanctions. Ce ne sont pas des amendes transactionnelles. Ce sont des amendes peines, amendes comme peine et comme sanction.
Tout à fait. Alors, Rodrigue Makita de Mbandaka, bonjour Rodrigue.
Oui, bonjour à Dukati, bonjour à votre invité.
Votre question?
Bon, ma question est de savoir à qui s'adresser quand on est devant un groupe de contrefacteurs, parce que ici en Bandaka, il y en a vraiment un match, mais dès qu'ils sont arrêtés par la police, deux jours après, ou même jour, ils sont relâchés. Donc, à qui s'adresser pour qu'ils soient vraiment arrêtés, jugés, condamnés?
Voilà, maître Marc, quelle procédure à suivre pour dénoncer?
Écoutez, pour dénoncer, je crois que la police, c'est déjà le commencement de la justice, parce que pour le praticien du droit, ils savent que la police constitue les yeux et les oreilles de l'OPJ et du ministère public, pardon. Donc, les agents de la police sont des OPJ. Ils sont déjà habilités, n'est-ce pas, à ouvrir les enquêtes. Et lorsqu'ils constatent que je parle des OPJ de la police, lorsqu'ils constatent que l'infraction de contrefaçon est établie, ils peuvent renvoyer les dossiers, n'est-ce pas, au niveau du magistrat du parquet. Et le magistrat du parquet, quand il se rend compte qu'effectivement, de l'existence de l'infraction, il peut soit envoyer la tête devant le tribunal, soit condamner et poursuivre la personne. Donc, si, comme notre ami Rodrigue, qui est aussitôt arrêté, bon, c'est une question de fait, Vous vous souvenez, tout à l'heure, je disais, que pour vraiment parler de la contrefaçon, c'est-à-dire se rendre compte qu'il s'agit d'une monnaie qui est altérée et qui est contrefaite, c'est vraiment un problème d'expertise. Il faut avoir le matériel, vous devez avoir la police scientifique avec tout le matériel devant détecter le caractère vrai ou faux de la monnaie et s'y dénoncer. Donc c'est vraiment aussi au niveau de la preuve, je pense que c'est le plus grand problème aujourd'hui. C'est le plus grand problème. Il ne suffit pas qu'on dise que la monnaie est contrefaite. Il faudrait que ce soit établi par des preuves techniques, scientifiques. Parce que la fabrication de la monnaie, déjà, c'est technique, c'est scientifique. Aussi, donc, même pour la preuve, ça doit être le même procédé. Donc, l'autorité compétente pour répondre à
l'autorité.
Il s'agit de toutes les autorités judiciaires, en commençant par les OPJ de la police, du magistrat, ainsi qu'au niveau du tribunal.
Mais on peut se passer de l'OPJ. En tant qu'auxiliaire de la justice, ici, on remarque déjà une certaine complaisance à ce niveau. Est-ce que, bon, les dénonciateurs peuvent directement se passer de l'OPJ pour atteindre directement le parquet?
Oui, il n'y a pas de problème. Donc, le dénonciateur peut se passer de l'OPJ, il peut directement saisir le magistrat du parquet, le magistrat du parquet de grande instance,
Voilà, monsieur Marc, on va terminer cet entretien, ben, juste avec une dernière curiosité. On sait que les billets des banques contrefaits, dotés d'un élément de sécurité authentique, ça complique un peu les choses, parce que là, c'est difficile hein, de reconnaître que ce billet est vraiment contrefait. Vous l'avez dit, ce sont des consommateurs qui en payent les prix, d'ailleurs. Ben alors, mais entre-temps, le faussaire, lui, il en profite d'ailleurs des progrès technologiques de l'imprimerie pour raffiner encore très bien ces produits, rendant ainsi le travail de la police encore difficile. Alors, pour les cas d'espèce, est-ce qu'il s'agit là d'une situation aggravante?
Écoutez, lorsque la personne qui se livre à la contrefaçon, déjà, socialement, cette personne-là est dangereuse. Socialement, la personne, elle est dangereuse. Alors, lorsque la personne recourt encore à des procédés, techniques plus performants, si vous voulez, je crois que c'est devant le parquet, les circonstances atténuantes.
Mais c'est atténuantes ou aggravantes, bon, là, nous sommes dans
les circonstances aggravantes, je crois qu'ils sont, elles sont légales. Elles sont définies par la loi. Donc, ce qui n'est pas écrit par la loi comme circonstances aggravantes, c'est difficile pour les juges parce que nous sommes en droit pénal. Et le droit pénal, c'est le principe de la légalité de ce qui est dit. Donc, je ne vois pas tellement ça. Je ne vois pas comment les juges, ou sinon, si la loi pénale ne le dit pas, les juges ne peuvent pas le prendre comme tel, malheureusement. Donc, mais je crois que le travail, quand vous lisez vraiment très bien la loi, par exemple, l'article 116, quand on dit ceux qui auront déjà contrefait frauduleusement, c'est-à-dire déjà l'intention, mais il suffit seulement que la personne ait l'intention. Et en technique de droit pénal, on dit qu'il s'agit seulement d'un dol général. C'est-à-dire on n'a pas besoin de pousser qu'est-ce que la personne. Il suffit seulement d'un simple dol général pour que l'infraction soit établie. À ce niveau, déjà, le législateur est très dur. Il est vraiment déjà très dur. Bon, le matériel utilisé, c'est pour renforcer aussi. Renforcer la preuve. Ok? Une fois le travail fait, on apporte le matériel. Ça, c'est pour renforcer la preuve. Parce que déjà, au niveau de l'incrimination, un vol général suffit. On n'a pas besoin d'un vol spécial.
Et en cas de récidive?
En cas de récidive, la sanction.
Double,
la sanction double. Ça, c'est la loi le dit.
Voilà, merci Maître Marc Ekila. Nous rappelons que vous êtes avocat près le barreau de Matete. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.